Des sous et des hommes. Une émission d'éco-pédago proposée et présentée par Pascal Fourier tous les mardis de 17h à 17h30. Nous avions évoqué la semaine dernière, peut-être vous en souvenez-vous, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Suzanne Georges, membre du conseil scientifique d'ATAC, nous avait présenté ce qu'était l'OMC, ses buts et son organisation, notamment ce qu'était l'ORD, l'organe de règlement des différends. Vous vous souvenez peut-être du contexte. Je suis chez Suzanne Georges, le thé est servi, la table en bois grince toujours. Ce qu'elle m'a dit jusqu'à présent sur l'OMC peut sembler tout à fait effrayant. Mais en quoi les services publics de santé, d'éducation par exemple, risquent-ils d'être mis en danger par les décisions de l'OMC? Je lui dis que je m'interroge sur ce sujet.
Vous avez raison de vous interroger là-dessus, parce que beaucoup de fonctionnaires nous disent, ou de personnel du ministère nous disent, mais ne vous inquiétez pas, les services publics sont parfaitement protégés. C'est pas vrai, quand on lit les accords, on voit qu'il y a beaucoup d'avenues, pour ne pas dire des boulevards, pour vraiment attaquer les dispositions. La première avenue, c'est la définition même des services publics dans l'accord qui gouverne ces services, qui s'appelle l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services, qui définit un service public comme un service qui est fourni dans l'exercice de l'autorité gouvernementale. Très bien. Bon. Seulement, tout de suite après, le paragraphe après dit, sauf que ce service fourni par le gouvernement ne doit pas être fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs, pour compter comme vraiment service public fourni dans l'autorité, avec l'autorité gouvernementale. Alors, bon, comme presque tout contient une transaction, l'achat d'un timbre-poste, le ticket de métro, le billet SNCF, même le tiers payant, et puis comme il y a concurrence pour la plus grande partie de ces services, ça c'est une manière de s'attaquer à ces services. Et croyez-moi, il y a beaucoup de firmes américaines, mais pas seulement, qui trouvent que ces marchés, parce qu'ils appellent des marchés comme ça, marché de la santé, marché de l'éducation, c'est très juteux. La santé, c'est l'affaire du siècle. C'est dans le monde, aux États-Unis, c'est 13% du PNB, en France c'est 9 ou 10%, dans tous les pays où la population est vieillissante, en Europe, c'est vraiment à partir de 8% du PNB, ce sont des sommes immenses. Alors, les compagnies de services de santé américaines qui ont déjà conquis complètement le territoire américain où il n'y a pas de couverture de santé qui vienne de l'État, c'est tout assurance privée, soins privés, etc. Il y a 43 millions de personnes qui n'ont rien, c'est quand même 16-17% de la population. Alors, voilà le marché qu'ils visent.
Mais certains en même temps pourraient dire, mais très bien, il va y avoir de la concurrence, donc les prix vont baisser, et finalement tout ça est extrêmement positif, qu'importe que ce soit une firme américaine.
Mais les prix, en particulier de la santé, ne peuvent pas baisser parce que on ne paie pas le prix le véritable prix de la santé en France. On paie des cotisations, mais le jour où on en a besoin, et si la maladie est grave, et j'ai eu l'occasion malheureusement de connaître ça pour mon mari récemment, vous avez vraiment 100%, vous ne payez rien. Si vous alliez payer le coût réel de tout ça, n'importe quelle famille serait ruinée. Enfin, même des gens plutôt aisés pourrait vite être ruiné par le coût réel de la santé. Les soins intensifs, c'est minimum 10 000 francs par jour. Je veux dire, vous voyez à quel train ça peut aller. Bon, alors, la concurrence peut être un facteur, on cite toujours les télécoms. Quand on veut faire cet argument-là, on dit oui, mais l'introduction des télécoms... Bon. D'une part, c'est peut-être vrai sur la communication de Paris à New York, mais si vous voulez appeler, je sais pas, Bamako, c'est plus cher que ça n'était. Ça dépend si votre appel est quelque chose de proche et si c'est sur des routes qui sont... Bon, on va pas entrer dans le détail de cela, mais il y a déjà de la concurrence en France et dans d'autres pays d'Europe, justement parce que il y a des fournisseurs privés. Les gens ont le choix entre la clinique privée ou l'école privée et l'école publique. Seulement, ce qui arriverait assez vite si on pouvait s'attaquer librement au service de l'éducation nationale et à la santé publique, ça serait assez rapidement un système à deux ou trois vitesses, parce que les meilleurs seraient très bien payés et seraient, et ça se passe déjà un peu comme ça, seraient attirés vers le privé individuellement et ça laisserait à la fois les équipements et les personnels les moins qualifiés, les moins intéressants pour les autres qui il y aurait toujours une couverture de base. C'est un peu ce que veut le MEDEF maintenant. Ils veulent une couverture de base. Bon, mais si vous êtes pauvre, c'est pas intéressant d'être plus malade que les soins de base parce que, bon, vous allez pas être très bien soigné. Mais je voulais dire les autres raisons de s'inquiéter. On s'en prend aussi aux subventions. Il y a un article dans cet AGCS qui dit les membres de l'OMC, donc les pays, reconnaissent que les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce, n'est-ce pas? On dit a priori que la subvention est une mauvaise chose. Or, aucun de nos services publics ne marcherait sans subvention. Nous ne payons pas le prix réel. Et c'est à ça que servent nos impôts, n'est-ce pas? Pour pouvoir répartir. Le budget du gouvernement sert, entre autres, à assurer que sur le territoire de la République, tous les citoyens sont égaux devant ces services publics et que c'est pas plus cher pour celui qui habite très loin dans la campagne de poster une lettre que pour celui qui poste une lettre pour le quartier à côté. Bon, c'est pas plus cher. C'est l'égalité. Mais ça ne marche que parce que c'est subventionné. Or, si on dit a priori dans un accord que la subvention est une mauvaise chose et peut avoir des effets de distorsion sur le commerce, et ça c'est le péché capital, c'est pas très bon. D'autre part, beaucoup de gouvernements ont dit que telle ou telle loi ou norme était nécessaire pour protéger la santé publique ou pour un autre objectif du gouvernement légitime. Et l'OMC admet qu'un gouvernement a des objectifs légitimes. Seulement, chaque fois que un gouvernement a invoqué ce principe de nécessité en disant telle ou telle loi chez moi c'est nécessaire et ça a été décidé par l'organe de règlement des différends, 10 fois sur 11, cette cour, ce tribunal a dit que cette loi ou norme n'était pas nécessaire et a dit c'est du protectionnisme déguisé, en réalité vous n'avez cette norme que pour exclure les produits ou les services d'autrui. Donc on se méfie aussi de cela. Et puis il y a une quatrième chose qui est un peu plus technique, mais c'est important de le connaître aussi, parce que ça s'appelle le principe de horizontalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, dans les négociations, on arrive à un accord sur l'un des services, par exemple sur les services de comptabilité, et on dit, ok, alors, sur les services de comptabilité, on accepte qu'une firme étrangère possède plus de 50% d'une autre firme de comptabilité nationale. D'accord. Bon. Pour la comptabilité, franchement, je m'en fiche. Hein. Je peux vous aussi, je pense. Mais sous le principe d'horizontalité, ça voudrait dire que l'on pourrait étendre ce principe-là à tous les services. Éducation, santé, culture, environnement compris. Et c'est ça qui nous paraît dangereux et c'est une approche que l'Europe aime beaucoup, que nos négociateurs au niveau européen veulent introduire. J'ai plein de citations à ce sujet. Ils trouvent que, alors, quand on en parle avec les gens au ministère en France, ils sont quand même un peu ébranlés maintenant dans leur conviction qu'on pourra vraiment protéger les services publics. Je pense que ce gouvernement-ci a vraiment sincèrement le désir de protéger les services publics. Je ne sais pas si on a dans l'avenir un gouvernement de droite, si sous la une sorte de technicité avec en se disant bon ben les citoyens vont pas s'en apercevoir parce que c'est très technique, je ne serais pas du tout surprise que d'autres ne brade des pans entiers des services publics parce que c'est très lucratif et parce que les milieux d'affaires, aussi bien français qu'américains, qu'allemands, etc., sont très très gourmands de ce genre de choses.
Aligre FM 93.1, des sous et des hommes. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, une seule pause musicale et c'était le titre raciste d'Ismaël Lowe. Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne Georges, membre du conseil scientifique d'attaque, qui nous parlait des incidences des décisions de l'OMC sur les services publics. Cela veut-il dire que demain, les services publics sont voués à la disparition?
Nous ne disons pas que demain matin, la santé va être attaquée ou que nous allons avoir un système d'éducation à deux vitesses tout de suite. Mais nous voyons bien que c'est visé. Nous avons absolument les citations de différentes firmes transnationales, de différents groupements d'intérêts américains ou australiens ou autres. Et par exemple, dans le domaine de l'éducation, actuellement, dans un budget d'un pays d'Europe, vous avez 80% du budget de l'éducation qui va pour les salaires et à peu près 20% pour le matériel. Ben, ces industriels de l'éducation voudraient renverser ça. Les salaires, ça coûte trop cher. Les profs, ça coûte trop cher. Les salaires, c'est toujours trop. Hein. Donc, il faut remplacer les profs par des logiciels. Il faut mettre du matériel à la place de l'humain. Et il faut renverser ces chiffres du budget pour qu'on ait 20% de salaire et 80% du matériel. C'est ça, leur vision. Et ce serait pareil avec la santé, avec la culture, privatiser les musées, privatiser les bibliothèques, tout ça, c'est des vaches à lait.
La grande objection, je pense, qu'on fait notamment à attaque, c'est de... Ça fonctionne comme ça, selon l'argument qu'on dit. Effectivement, si on laisse la libéralisation se faire comme ça dans n'importe quel sens, et s'il n'y a pas de régulation, ça va être encore pire que ce que c'est actuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut réguler par l'intermédiaire de l'OMC.
Mais nous voulons des règles. ATTAC n'est absolument pas une organisation qui dit il faut la loi de la jungle, il faut déréglementer tout ça. Non, nous voulons des règles, mais nous considérons que les règles actuelles sont faites très largement par et pour les très grandes sociétés qui ont envie de n'avoir plus aucune entrave à leur marché, à leur pénétration dans tous les pays du monde et qui contrôlent d'ailleurs plus des deux tiers du commerce mondial déjà. Le commerce, c'est pas des petites firmes qui commercent, et puis d'ailleurs un tiers du commerce mondial a lieu entre filiale et maison mère d'une même transnationale. Je veux dire, on parle de commerce quand c'est Renault qui envoie des pièces détachées à Renault, ou quand c'est IBM qui fabrique dans un pays et qui fait l'assemblée de ses machines, de ses ordinateurs dans un autre pays. Mm. Ça compte comme du commerce. Ce type de transaction intra-firme, c'est déjà plus d'un tiers du commerce. C'est plus de 40% aux États-Unis. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de commerce? On parle de libéraliser les possibilités pour ces pays de mettre, pour ces firmes, je veux dire, pour ces entreprises, de mettre leurs activités là où ça les arrange le plus. Mais ça n'a rien à voir avec des citoyens ou leurs besoins. Et c'est surtout des règles qui n'ont pas été approuvées par les parlements, qui n'ont pas été discutées démocratiquement. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il faudrait mettre d'autres droits internationaux, les droits de l'homme, les droits de la nature, parce que aussi, ça c'est tout un autre chapitre. L'OMC ne respecte pas du tout les traités sur l'environnement. Elle n'a pas à le faire, parce que l'OMC ne fait pas partie des Nations Unies et n'a pas à respecter un autre droit. Nous disons qu'il faudrait qu'il y ait des principes de droit qui coiffent les activités de l'OMC. Nous disons qu'il faut aussi une définition du service public qui permet à chaque gouvernement de décider ce qui est et n'est pas un service public, et si c'en est un, de dire qu'il n'y a absolument pas de pénétration de ce secteur. Il y a un autre accord dont nous n'avons pas parlé qui s'appelle l'accord sur la propriété intellectuelle, qui permet le brevetage du vivant, des gènes, des séquences de gènes et des processus microbiologiques. Les OGM, c'est en partie pour cela que les industriels veulent tellement introduire les OGM, parce que comme ça ils contrôlent la semence. L'agriculteur n'a plus le droit d'échanger des semences ou d'en garder. Mais vous voyez bien que c'est le marché captif, c'est l'idéal, c'est formidable pour l'industriel, c'est beaucoup moins bien pour l'agriculteur. Mais le brevetage du vivant, nous pensons, que, d'ailleurs avec tous les pays africains, qu'il faudrait larguer ça. Nous pensons qu'il y a aussi des parties des règlements sanitaires et phytosanitaires qui veulent nous faire baisser nos normes. Alors, peut-être que certains pays n'ont pas encore les normes aussi élevées que les nôtres, mais au lieu de faire baisser ceux qui ont le mieux, il faudrait aider les autres à monter leurs normes et les mettre en condition de les appliquer. Alors, tout dans cette organisation est organisé pour pousser vers le bas, que ce soit les salaires, que ce soit les normes, que ce soit le respect pour la nature, au lieu de mettre un plancher sous tout le monde et puis dire on va élever petit à petit le plancher et pour les plus pauvres en particulier on va les aider à le faire. Non, on dit on va baisser tout le monde vers le dénominateur le plus petit. Et puis une autre chose, c'est que les pays pauvres sont vraiment les laissés pour compte dans cette histoire.
Pourtant Bush dit l'inverse. Il dit que les personnes qui ne veulent pas, qui contestent l'OMC,
sont contre les pauvres. Si vous êtes contre l'OMC, c'est que vous êtes contre les pauvres. Ben, c'est comme si on disait, je ne sais pas, si vous êtes contre la Gestapo, vous êtes contre la police. Non. Au contraire, vous savez qu'actuellement, les pays du Sud, très souvent, n'ont même pas d'ambassadeur à Genève. Ces pays n'ont pas les moyens, ni en personnel, ni carrément en argent, de bien suivre ces négociations. C'est très technique. Il y a plusieurs comités et négociations qui se poursuivent en parallèle. Et ils n'ont pas les moyens de l'Inde peut-être et encore, mais un pays africain est complètement perdu là-dedans. Comme disait l'ambassadeur d'un pays du Sud, à l'OMC, c'est comme un cinéma multiplex. Vous devez savoir quel film vous voulez voir parce que vous pouvez pas les voir tous. Ça veut dire il faut que je sache quelle négociation je veux suivre parce que je peux pas être présent partout. Et puis, ces pays qui devaient avoir ce qu'on appelle un traitement spécial et différencié ont pas reçu ce traitement. Ça a été distribué au compte-gouttes. Et leurs produits les plus intéressants, textiles, chaussures, des vraiment les premiers stades de l'industrialisation, sont encore... Nos pays protègent beaucoup contre ces produits-là. Alors, c'est un régime injuste. Nous pensons qu'il faudrait mettre tout à plat. Il faudrait faire le bilan de l'OMC. Ça a été promis, mais naturellement, ça n'a jamais été mis en œuvre. Et l'une de nos demandes, c'est de dire, bon, écoutez, on a 6 ans d'expérience maintenant, on avance avec ce rouleau compresseur, on n'a pas mesuré quels sont les impacts de cet accord, quels sont les dangers qu'il recèle pour l'avenir. Et mettons ça à plat avant de parler de nouvelles négociations. Mais nous voulons des règles.
C'était donc Suzanne George qui nous parlait de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Suzanne George, je le rappelle, est membre du Conseil Scientifique d'Attaque, mouvement très critique vis-à-vis de l'OMC. Pour ou contre l'OMC, à chacun de se faire son opinion. Et je pense qu'il faut être attentif, pour le moins, à ce qui se décide. Pour vous faire une idée, vous pouvez aller sur le net en tapant sur votre moteur de recherche OMC ou en allant sur le site d'Attaque, www.attaque.org, notamment sur les liens qu'il propose. Vous pouvez aussi acheter, je vous le rappelle, pour la très modique somme de 1,50€, si j'ai bien calculé, le petit livre de Suzanne George intitulé « Remettre l'OMC à sa place » et qui est édité par les éditions des Mille et Une Nuits. Voilà, des sous et des hommes, c'est terminé. Nous nous retrouvons, je l'espère, la mardi prochain de 17 à 17h30 pour écouter Thomas Coutreau sur le thème du chômage, émission déjà diffusée le 8 janvier mais pour laquelle nous avions eu un petit problème de diffusion, ce dont nous vous prions de nous excuser. À la semaine prochaine.